franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, la question du changement climatique selon les cultures avec Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader et Stéphane Rosès.
Nos perceptions de ce changement climatique sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. En Allemagne, les dégâts du climat ont une conséquence morale. On ne doit pas... Par contre, en France, dans des études qui ont été conduites par une psychologue sociale qui s'appelle Madame Sankowska, qui est à Paris 5, en France, les conséquences sont beaucoup plus évaluées sous un angle fonctionnel, économique. Mmh. Donc nous ne sommes pas du tout dans les mêmes imaginaires sur les transformations du climat, et donc dans les discussions internationales, il faut absolument prendre en compte
la culture.
La culture.
Hein, et ça caractérise nos liens aussi très français.
Oui, absolument.
Avec
J'ai eu la chance d'être expert sur la plus grande consultation mondiale opérée lors de la COP 21 à Paris. Donc on travaillait à partir du protocole danois dans tous les continents, des études qualitatives, quantitatives. Effectivement. Longtemps, l'Occident voyait le risque climatique comme un risque grave, réel. On pouvait penser que c'est parce que cet Occident-là, n'arrivant plus à se projeter dans un avenir meilleur, croyait à la crainte eschatologique du risque climatique pour se réapproprier un avenir qui échappe et reposer, au nom de l'égalité que nous avons tous, à ce que nos petits-enfants habitent dans une planète viable, essayer de retrouver d'autres formes de type de développement économique, social, environnemental. Eh bien, la nouveauté de la période, c'est qu'au moment de la COP 21, même les autres continents, les pays les moins développés, en fait précaires climatiquement, eux aussi souhaitent une prise en charge mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ce que vous dites, madame, est tout à fait vrai. Ensuite, ça varie quant aux réponses, quant aux appropriations. Les Allemands sont ceux qui sont le plus à dire, mais nous, les pays riches, nous devons aider les pays pauvres, et la raison en est morale.
Donc il y a la responsabilité.
Alors que l'approche française est plus effectivement économico-idéologique.
Mardi, à l'origine, que représentaient les monstres avec Laurent Lemire et Jean-Louis Fischer?
Il était envoyé par les dieux à l'époque antique. Ensuite, on a des tas de récits dans la Bible de personnages monstrueux qui sont là pour indiquer quelque chose, une catastrophe. Donc l'arrivée d'un monstre dans ces récits est quand même annonciateur de quelque chose de très négatif. Ça s'est un peu perpétué parce que même Chateaubriand considérait, esprit quand même rationnel, considérait que le monstre était annonciateur de quelque chose de terrifiant.
Oui, Jean-Louis Fischer.
Oui, alors il y a le monstre annonciateur. On en a des célèbres comme le monstre de Ravenne qui annonçait la bataille de Ravenne avec les Italiens et les Français. La mort d'Alexandre est annoncée par la naissance d'un monstre. C'est très curieux, le XVIIIe siècle, on a un dictionnaire, c'est le dictionnaire de Trévoux, dans lequel on trouve le terme tératoscopie. C'est-à-dire, ça montre bien justement comment le monstre peut être divinatoire quelque part. Généralement, c'est d'une catastrophe. Et aujourd'hui, il faut dire quand même, aujourd'hui, c'est très important, parce qu'il y a toujours la naissance monstrueuse est annonciatrice quand même d'une catastrophe. On a eu ces vaisseaux en Italie, mais à Hambourg, hein, on a À la même époque, il y a eu des accidents comme ça. Il y a des journaux qui ont montré des enfants nés avec des malformations très très graves. On a fait cette relation qui n'est pas toujours exacte, mais on l'a quand même fait. On a montré le monstre comme indiquant un danger. C'était celui du chimie qui pouvait atteindre.
Absolument. Mais là, c'est l'homme lui-même qui engendre finalement.
Et aujourd'hui, nous avons la même chose. Par exemple, nous avons dans les guerres chimiques, dans les armes qu'on appelle aujourd'hui avec de l'uranium appauvri qu'on enrichit à l'occasion et qui ont montré dans certaines régions, je pense par exemple à Fallujah, où on n'a presque rien dit là-dessus parce que l'OMS est bloquée justement pour dans ces rapports, où on a des naissances tératologiques qui indiquent justement le danger, qui sont témoins aujourd'hui encore d'un danger.
Mercredi, que faire face aux difficultés dans le couple? Les réponses de Brigitte Alain-Dupré et Philippe Jamet.
qu'est-ce qui ne va pas quand quelque chose ne va pas? C'est que la différence de l'autre se présente pour moi comme une espèce de traumatisme, comme une espèce d'alien, d'objet...
Insaisissable au fond.
Insaisissable ou inconnu. Alors que la différence de l'autre, dans un couple qui réussit à fonctionner de manière à peu près équilibrée, elle enrichit, elle apporte quelque chose de nouveau. Mais les questions de territoire que vous évoquiez tout à l'heure, Philippe Jamais.
Oui, justement, pour réagir.
Mais je pense que l'important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut aussi. On oublie trop qu'on vient en se plaignant d'un certain nombre de choses. Si on se plaint en général, c'est qu'on voudrait autre chose. C'est pas du négatif uniquement, cette plainte. C'est qu'on voudrait que ce soit encore mieux. Et de se centrer tout autant. Et ça, c'est le rôle aussi de ceux de notre rôle, nous, quand on vient nous voir. C'est de dire, mais au fond, quel est le but? Oui. On peut aussi en politique d'ailleurs. Enfin, oui. Mais bon, je fais une petite comme ça, j'en profite. Oui, au lieu de se battre tout le temps sur les moyens, mais de dire quel est vraiment le but essentiel, quels sont les essentiels et comment petit à petit on va essayer de se diriger vers ces essentiels en ne se laissant pas bouffer pour des bêtises de la vie quotidienne, pour des choses secondaires. Oui. Et avoir cette mise en perspective, elle est possible. Or, très souvent, on fonctionne en tout ou rien. Si on n'est pas d'accord sur tous ces problèmes-là, alors c'est qu'on ne s'aime plus. Et comme on a peur qu'en effet ce soit vrai, on se tait. Plus on se tait, plus on est mal. Et voilà les engrenages qui sont tout à fait pathogènes. On peut se dire, on doit se dire et oser parler. Au fond, qu'est-ce qu'on veut?
C'est tellement simple quand on vous entend.
Mais la vie est plus simple quand le premier. Il faut attendre évidemment 75 ans pour s'en rendre compte. C'est un peu triste.
Bon.
Non, il faudrait que ça se fasse avant.
Brigitte Alain Dupré, c'est vrai. Quand on entend vos propos, on se dit, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? C'est quelque chose qui nous empoisonne la vie, alors que c'est beaucoup plus simple que ça en réalité.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Nous sommes, et Philippe Jamais ne me contredira pas, nous sommes les représentants aussi d'une part souffrante de la population et de l'humanité. Mais je crois qu'il y a.
Vous, les psychologues?
Ah, ben oui, ouais. On ne reçoit que des gens qui souffrent. Donc, et c'est très important aussi de se dire, mais il y a plein de gens qui vont bien et qui se débrouillent avec tout ça.
Absolument, et c'est pour ça que mon livre, c'est un témoignage. Et ce témoignage que je dois à mes patients, c'est parce que j'ai plus de 50 ans de recul et que j'ai encore des contacts avec des gens que j'ai connus dans les années 69 comme internes, pas en les soignant, mais en les revoyant. C'est tous ceux dont on a des nouvelles et qui vous permettent de dire, attendez, il n'y a aucune fatalité. Tout le monde préfère être bien qu'être mal. Donc quand on sait ça, on peut supporter les petites difficultés et même quelquefois des difficultés plus importantes, parce qu'il y a un objectif, parce qu'on n'est pas en tout ou rien. Si on n'est pas parfait, si on s'aime pas comme au premier jour, si c'est pas pareil, alors c'est que l'amour ne dure que 3 ans, donc on fout tout en l'air. Mais tout ça, c'est des bêtises. Elle sera ce qu'on veut le faire. C'est le drame, c'est la dramatisation qui crée le drame dans tous les domaines. C'est-à-dire, si vous dramatisez les choses, elles le deviendront.
Jeudi, le foie, cet organe silencieux, avec Sandrine Letellier et le professeur Victor de Lédingan.
On a mal aux dents, on a mal au dos.
Et on s'en occupe.
Et on s'en occupe, seulement le foie, il continue à gémir et on ne pense même pas qu'on a mal au foie. Et pourtant, on a mal au foie.
Oui, vous parlez d'organes silencieux, hein, Victor de Lédingan. C'est peut-être le problème d'ailleurs. Hein.
Exactement. Pour savoir si votre poumon va bien, vous respirez. Pour savoir que votre cœur va bien, vous prenez le pouls. Pour les reins, vous urinez, etc., etc. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous savez si votre foie va bien?
Oui.
Eh bien non. Et pourtant, il bosse, hein. 35 heures, il ne connaît pas. C'est jour et nuit.
Ouais.
C'est une formidable usine de synthèse, d'épuration. Et sans un mot, chaque seconde, il travaille.
Ouais. Et on le connaît si peu. Alors, il y avait d'ailleurs eu un sondage Ipsos publié par la Société française d'hépatologie en juin 2016. Un Français sur quatre ne sait pas où se trouve précisément le foie et à quoi il ressemble vraiment. Donc on peut faire un petit cours d'anatomie pour commencer.
Alors le foie, il n'est pas au milieu du ventre, il est caché, il se protège et il est derrière les côtes.
Pourtant, il est énorme. Hein.
Il est énorme, il fait plus d'un kilo, peut-être 2 kilos chez certains. Il est caché sous les côtes, tout en haut, juste sous les poumons à droite. Ouais. Mais on ne le sent pas. Eh bien, il travaille en silence, une fois de plus.
Ouais, et il prend une place donc très importante.
Il prend plus de la moitié de l'espace sous les côtes et de l'autre côté, il y a le cœur.
Ouais. Donc c'est vraiment la glande la plus volumineuse de l'organisme?
C'est la glande la plus volumineuse de l'organisme, plus gros que le cerveau.
Ouais, c'est vrai, 1,5 kg hein, en moyenne et 2% de la masse corporelle quand même.
Hein. Si gros et si vite oublié.
Voilà. Et alors cette couleur avec 2 lobes, là aussi, hein, parce qu'on n'a pas toujours forcément l'image en tête, mais il y a 2 lobes sur le foie de couleur très rouge.
Un foie qui va bien est très rouge, très souple, tout mou. Et puis, lorsqu'on a des maladies du foie, il va devenir plus petit, plus rouge foncé et plus dur. Alors ça, on ne le sent pas. Hein. Tout ça, c'est malheureusement des choses qui arrivent un peu tard. Et tout l'objet des soins au foie, c'est de prévenir et de garder notre foie en pleine santé.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.